Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à ce nouvel épisode de Ciné Brunch. Je suis aujourd'hui en compagnie de mes deux collaborateurs, Jim.
Hello.
Et Mélina.
Bonjour.
Comment allez-vous aujourd'hui?
Ça va très bien.
Excellent, sauf Jim qui a vraiment faim en ce moment.
Oui, ben c'est normal, hein? C'est l'heure du brunch.
C'est l'heure du brunch, les crêpes s'en viennent, Jim, les crêpes s'en viennent.
Parfait.
Avez-vous passé une belle semaine? Qu'est-ce que vous avez fait de votre semaine, Mélina, pour commencer?
Ben moi, en fait, je filais pas trop, donc je me suis tapé un petit film Netflix qui s'appelle The Rewrite, les mots pour lui dire, c'est avec Hugh Grant. Et,
c'est beau Hugh Grant about it, ça.
Ah, oui, avec un bel et charmant accent. On reste dans le thème parce qu'il joue le rôle de Ray Michaels, qui est un scénariste à Hollywood qui a gagné un Oscar en 1988, mais qui est désormais fauché et sans aucun projet. Et il est forcé de quitter Hollywood et d'accepter un poste de professeur d'écriture dans une petite université américaine. Donc, comme je disais, on a écouté ça sur Netflix. C'était franchement intéressant, drôle. Ça passe bien le temps lors d'un après-midi où on est un peu malade.
Hmm. Excellent, excellent. Jim, toi, de ta semaine?
Écoute, moi, je suis allé au cinéma, comme j'en ai l'habitude. J'ai été voir Alias Maria, un film en espagnol sous-titré français. C'est l'histoire d'une jeune colombienne soldat, mitrailleuse au dos, qui lutte dans la jungle en Colombie. On est à l'époque, qui n'est pas si lointaine, où l'armée et la guérilla s'affrontaient. On recrute des enfants pour se joindre à la cause et on suit un petit groupe en cavale qui a une mission particulière, aller livrer un bébé à un village. C'est un film assez rough, réalité colombienne, mais aussi sur la place de la maternité dans un conflit armé. C'est ambitieux, mais c'est très réussi. D'ailleurs, je suis un peu étonné que le film ait pas une meilleure note, parce que personnellement, ça vaut au moins un 7.5, peut-être 10, 8 sur 10. Donc, film présenté à Cannes en 2015, mais il était à la Maison du cinéma la semaine dernière.
Ouh! C'est comme le mois des films sous-titrés dans des... en français, parce qu'après Into the Fate que j'ai vu la semaine dernière, allemand, ça que t'as vu cette semaine, l'autre que tu as vu cette semaine,
absolument,
dont on va parler plus tard, c'est quand même pas trop pire.
Oui, mais je pense que c'est la période des Oscars qui fait ça. Puis de Cannes aussi. Ouais,
la Cannes vraiment plus que les Oscars.
La canne à pêche.
Le sucre de Cannes.
Oui, le sucre de Cannes. Ok, on va juste pas. Ok. Excellent. Moi, personnellement, j'aimerais souligner à nos auditeurs, auditrices, qu'ils ont un rôle en ce moment de membre du public qui est disponible pour être membre du jury du Festival de films de Sherbrooke. Il reste encore du temps pour participer au processus de sélection. Suffit d'envoyer un essai sur comment est-ce qu'on pourrait bien représenter le public et quelles sont nos expériences à apprécier les films. C'est ça, pour être membre du jury, c'est quand même un poste intéressant. On s'engage à écouter 5 films de la sélection officielle et 5 documentaires également lors du festival.
C'est bien intéressant, mais on préférait aller voir les films pour faire les critiques, mais oui.
Oui, non, mais c'est pour ça que j'avertis nos membres du
bien
public,
sûr,
pour que
oui,
eux puissent participer à ça. Je sais que...
Ça doit achever d'ailleurs, parce que c'est bientôt là, le festival.
C'est justement, je pense que c'est aujourd'hui ou demain, les derniers jours pour
bon,
ça. Fait que, embrayez. Excellent. Fait que Mélina, cette semaine, tu as été voir Garde alternée au cinéma.
Oui.
J'aimerais que tu nous en parles.
Ben oui, écoute, c'est un film français, en fait, de Alexandra Leclerc. C'est avec Valérie Bonneton, Didier Bourdon et Isabelle Carré. C'est une comédie. C'est 13 ans et plus d'entrée de jeu. C'est un peu coquin, des fois, par moment. Et bon, voilà, en fait, le résumé, c'est l'histoire de Sandrine, qui est mariée depuis 15 ans, qui a 2 enfants, et qui découvre que son mari, Jean, a une relation extra-conjugale. Passé le choc, elle décide de rencontrer sa rivale Virginie et lui propose un étrange marché, prendre Jean en garde alternée. Les deux femmes se mettent d'accord et imposent à leur homme ce nouveau mode de vie. Donc on va aller écouter la bande-annonce.
On est toujours chez tes parents ce soir. En revanche, demain, je dîne.
Avec Michel, oui, tu me l'as déjà dit. Hein.
Chercher un titre en particulier?
Je suis la femme de Jean.
Je connais pas. C'est quel auteur?
Je voulais vous proposer de
de prendre mon mari une semaine sur deux. Virginie et moi avons décidé de te prendre en garde alternée.
Virginie, il est chez sa femme.
Il couche plus avec elle. Tu peux pas juste me dire je recouche avec ma femme ?
Là, c'est ma femme.
Écoutez, c'est de la comédie française qui est vraiment classique. C'est surprenant, c'est un peu absurde. Le jeu des acteurs, je l'ai trouvé très bon. C'est éclaté, c'est exubérant, mais c'est ce à quoi on s'attend en voyant une comédie française de ce type. Mais dans ce film-là, la garde alternée, en fait, c'est surtout le concept, c'est l'idée originale du scénario qui retient vraiment l'attention. Dès que la femme et la maîtresse décident de faire une garde partagée de leur homme, parce qu'on s'entend, l'adultère, c'est un thème qui a été souvent exploré au cinéma, mais rarement dans ce sens-là. Puis, ça induit vraiment une réflexion qui est vraiment intéressante et nouvelle aussi. Genre, dans une situation pareille, vous apprenez que votre conjoint-conjointe vous trompe depuis un an, est-ce que vous seriez prêt à passer une entente avec l'autre personne afin de partager votre conjoint?
Mais est-ce que c'est comme une exploration des limites d'une relation comme ça, ou c'est vraiment juste utiliser le concept pour en faire des blagues?
Il y a un peu des deux, je pense. Je pense que ouais, c'est le pas... film, il y a un peu des deux. Ça, ça pousse assez loin, je pense, les effets négatifs de ça.
Mais les aspects positifs, la difficulté, la jalousie, c'est-tu exploré ou c'est vraiment juste une comédie, là?
Non, on explore quand même ces aspects-là. Ça reste, je sais pas, une exploration en profondeur, mais ça l'explore quand même plusieurs aspects. Puis, ce que j'ai vraiment aimé de ce film-là, en fait, c'est qu'on commence directement dans l'action. Il n'y a pas de fla-fla au début. Dès que le film commence, Sandrine vient de s'apercevoir que son mari la trompe. Puis, après les 15 premières minutes, on a déjà vu tout le contenu de la bande-annonce. Puis là, c'est là que t'es comme, ben, qu'est-ce qui va se passer après, tu sais? Puis c'est là que les surprises arrivent. Mais ça fait en sorte qu'on a un rythme assez inégal. Il y a des longueurs, même si ça commence super rapidement. Puis, il y a aussi une... Moi, j'ai remarqué vraiment une certaine faiblesse au niveau des histoires secondaires qui sont développées durant le film. Soit que la résolution de ces histoires-là est vraiment trop évidente, ou soit que la résolution n'arrive jamais. Puis là, je pense notamment à une étudiante qui semble obsédée par Jean, puis cet arc secondaire-là fait juste diminuer en importance tout au long du film, jusqu'à simplement disparaître. Puis après, c'est comme, ben, ça servait à quoi cet arc-là, tu sais?
Peut-être juste à montrer qu'il pogne, là, je sais pas.
Je sais pas, mais il n'y avait pas de résolution.
Est-ce qu'il y avait des bons gags qui sortaient de cet arc-là? Parce que des fois, en comédie, tu peux justifier un peu comme ça.
Pas vraiment, ça dure quelques secondes, puis on n'en parle plus, c'est vraiment. Ça, c'est...
OK, OK. Fait que c'est un peu des méandres qui se
perdent. Mais tu vois, j'avais oublié. Moi, okay. cet élément-là, parce que j'avais pas cette impression-là qu'il y avait tant d'éléments non résolus, mais effectivement...
C'est une faiblesse, vraiment, je trouve, au niveau des histoires secondaires. L'autre histoire secondaire que je dis, vous le gâcherez pas, la résolution est vraiment très évidente, là, même toi, Jim...
Oui, j'avais deviné pendant. Ouais.
Ben oui, pendant, puis un coup, c'est franchement évident. Mais sinon, ce film-là termine avec une fin qui est vraiment ambitieuse, qui surprend vraiment beaucoup.
Est-ce qu'il y a des feux d'artifice?
Non.
Non.
C'est bien décevant.
Il n'y a pas de Wagner non plus.
C'est donc bien décevant.
C'est pas un vrai film français. Ben selon tes standards, oui, mais que veux-tu?
Mais si ça parle pas de Fofoun, s'il n'y a pas du classique, moi je sais pas ce que ça serait à être français. Quoi que ça parle de Fofoun, c'est tout.
Mais il y a du classique, la protagoniste joue du violon.
Oui.
C'est pas du piano, on sort des sentiers battus.
Ça fait changement.
Ouais, ok, c'est bon. Ça
l'innove quand même, ça l'innove. Mais bon, bref, pour ce film-là, c'est une belle comédie française. Moi, je vous le recommande, puis je donne un bon 7 sur 10 à Garde alternée.
Ouh, quand même très bon. Merci beaucoup, Mélina.
Merci.
Toi, Jim, ta note, d'un coup, tu as été le voir.
Moi, j'ai donné exactement ça, 7 sur 10 aussi.
Mais pas pour les mêmes raisons. Tu te rappelais plus des bouts qui partent.
Ben, moi, j'ai juste trouvé que, bon, c'est ça, effectivement, le débit était peut-être pas égal dans ce film-là. C'est pas vraiment les éléments, disons, non résolus qui m'ont dérangé. Ce qui m'a plus dérangé, c'est que c'était long par moments, c'est que ça manquait... À la fin, elle était très ambitieuse, mais sinon, on est un peu dans la redondance. Tu sais, on aurait pu couper ce film-là en deux ou presque. Là.
Oui.
Ouais.
Excellent. Je garde ça en note et c'est bon. Merci.
Tu iras pas. Mais...
C'est un film français, c'est une comédie.
Mais
vous savez ce que je pense de ces choses-là.
C'est pour les gens qui aiment le genre, oui. Ça vaut la peine.
Non, c'est amusant.
Oui, mais j'aime pas le fun. Moi, dans un film français, c'est pas Ma nuit chez Maud comme, ou genre de quoi de classique, historique, comme L'histoire de Danton. Je vais pas le voir.
La vie d'Adèle?
Même pas. Non, s'il y a pas Gérard Depardieu qui s'époumonne quelque part. Je suis pas sûr que ça compte comme un vrai film français.
On vous parlera un jour de la vie d'Adèle parce que c'est un film franchement intéressant.
En échange, je vous parlerai de la classe américaine, Le Grand Détournement.
On pourra en parler tout ça.
On pourra en parler. Oui, excellent. Fait que moi, cette semaine, j'ai été voir La Panthère Noire. Non, Jim. Non. Non! Ce n'est pas La Panthère Rose. C'était préemptif. C'était d'avance. Mais
tu me connais si mal.
Je te connais si bien. Ça fait assez de fois qu'on l'a fait en hors d'onde, cette okay. petite blague-là. Je voulais me prémunir contre ces choses-là.
Bref.
Oui. Là, normalement, je commence par faire un petit résumé. Puis ça, je vous mets la bande-annonce. Je vous mets la bande-annonce en premier parce que je l'aime. Ooh. Fait que on va pour ça.
Vous voulez dire que le roi d'un pays du tiers-monde se balade en combi moulante à l'épreuve des balles?
Demandez-lui si vous croyez que c'est faux. C'est pas dur, il est là, dehors. Bingo.
Mon roi...
Arrête avec ça.
Il est vivant.
Fait que voilà, ça c'est la bande-annonce d'un film qui, ma foi, était...
rythmique.
Extraordinaire. C'était... d'ailleurs, on entendait un peu de la bande... des voyelles. On entendait des morceaux de la soundtrack de ce film-là qui était à la fois composé par Ludwig Göransson, qui a composé la musique, mais tout ce qui est les pièces de musique déjà connues, c'est Kendrick Lamar qui les a produits. Les chansons pour le film, il y en a d'ailleurs sorti un album, Black Panther The Album, un titre très original.
Oui.
Et honnêtement, c'est un film de Marvel. On est habitué à un certain niveau de qualité, à un certain standard, mais je pense qu'on n'a jamais vu un film de Marvel avec une bande sonore aussi extraordinaire. Je pense que le seul qui s'en rapproche, c'est à la télé, Luke Cage... allait dans la même direction. C'était aussi un super-héros noir qui était à la tête de ce projet-là, mais là, vraiment, je pense qu'on a dépassé quelque chose. J'ai aussi une admiration presque sans borne pour Kendrick Lamar. Là. Je pense que c'est un des artistes de la décennie et même du siècle qui va définitivement laisser sa marque. Ah. Mais trêve de plaisanterie et de moi qui m'excite le poil.
Le peu que tu as en ce moment.
Oui, chers auditeurs, auditrices, ma barbe y est passée.
Oui, oui.
Ma jovialité apparaît avec beaucoup plus d'éclat.
Heureusement que tu es encore bon enfant.
Maintenant que mon visage est directement à la lumière du jour. Donc, le résumé rapide de la mort de son père, T'Challa, est nommé roi du royaume de Wakanda, une nation africaine recluse et heureuse, qui, grâce à un métal précieux appelé le vibranium, la cité est arrivée à développer des technologies supérieures à celles utilisées sur le reste de la planète. Bientôt, la prospérité de Wakanda est menacée quand un descendant de la famille royale débarque dans le pays avec la ferme intention de détrôner T'Challa et d'utiliser les technologies de Wakanda afin de déclarer la guerre au monde entier. T'Challa devra utiliser les pouvoirs de la Panthère Noire afin de défendre son peuple et l'humanité au grand complet. Fait que ça, c'est ça. Mais c'est un film de Marvel, fait que ça s'inscrit aussi dans tout un univers complet de cossins.
Oui.
Fait qu'effectivement, le film commence avec un retour dans le passé où on nous explique comment est-ce que le vibranium qui s'est ramassé entre les mains de Ulysses Klaus a pu sortir du Wakanda. C'est en réalité une trahison d'un membre de la famille royale dont le fils est le dos dont il est question dans le résumé. Là. Comme le fils en question ici s'appelle Killmonger dans le film. C'est joué par Michael B. Jordan. J'ai des émotions pour ce personnage-là tellement qu'il était esthétiquement plaisant, qu'il était... Le personnage était crédible, profond, intéressant. Il jouait à l'opposé de Chadwick Boseman, qui jouait la Panthère Noire, T'Challa, qui, encore une fois, reprenait son rôle avec un aplomb du Raban. Mais là, on parle, mettons, Martin Freeman qui jouait, qu'on entendait dans la bande-annonce qui demandait si effectivement le roi du Wakanda se promenait en combine, qui reprenait son rôle de Everett Keras comme agent de la CIA. On avait Andy Serkis, qui était Ulysses Klaus. Là, je vous ai juste parlé des hommes du film.
Mais ah, c'est des femmes là-dedans?
Pas ça le bout important. Ah. Autant ces personnages-là sont extraordinairement bons et intéressants, autant c'est Danai Gurira qui joue Okoye, la chef des forces spéciales Wakanda, qui est un groupe d'élite entièrement composé de femmes qui est chargé de défendre la royauté de Wakanda. Autant l'ex-copine slash peut-être consort royal Nakia, qui est joué par Lupita Nyong'o de main de maître, est extraordinaire. Letitia Wright qui joue Shuri, la sœur de T'Challa. C'est toutes des femmes qui, la mère de T'Challa aussi, dont je n'ai pas nommé l'actrice qui la joue, mais c'est toutes des rôles extraordinaires qui remplissent une place incroyable dans le film. Puis, ce qui est vraiment le fun, là on a parlé de l'histoire qui était très bonne, on a parlé des personnages qui étaient extraordinairement profonds, on a parlé de l'esthétique. Faut aussi que je vous parle de l'esthétique rapidement. Tout le film est imprégné de ce qu'on appelle le mouvement afro-futuriste, que je ne connaissais zéro pied de barre avant d'écouter ce film-là, mais que j'ai découvert avec une appréciation sans borne après. C'est toute l'idée d'imaginer un futur, non pas avec le point de vue occidental qu'on a habituel, c'est-à-dire les mettons, Minority Report de ce monde, ou les matrices de ce monde, où on voit un futur basé sur ce qu'on imagine ici, mais bien un futur basé sur les traditions africaines et sur l'esthétique africaine. Et le travail de recherche à ce niveau-là est extraordinaire. Là, on parle de Wakanda, qui est une nation hyper technologique, qui ont accès à des lasers. Non, ça n'existe pas vraiment. Non, ce serait un peu trop.
On ne sait jamais. Mais
dans ce cas-ci, non. Mais ils réussissent à rendre des technologies comme des espèces de lasers ou entre autres, un des scènes qui m'avait le plus impressionné, c'était leur espèce d'infirmerie high-tech, mais qui était entièrement décorée dans des styles africains. Et c'était juste de toute beauté. Les costumes, d'une scène à l'autre, on voit des scènes rituelles très tribal, avec les costumes qui viennent avec les habits traditionnels qui viennent avec. Et quelques semaines plus tard, c'est les mêmes personnes, mais cette fois-ci dans les habits tous les jours. Super crédible, super beau. Vraiment, comme peu de choses à enlever à ce film-là. Un peu trop rapide sur certains aspects. Nécessairement, la formule Marvel fait que ça ne pouvait durer qu'un seul film. Donc, un héros, un méchant qui aurait pu durer sur quelques épisodes, qu'on aurait pu voir se développer, doit passer entièrement son arc dans un seul film de 2h30. J'aurais aimé voir plus de Michael B. Jordan en tant que Killmonger. Il fait un rôle extraordinaire. Ulysses Kloss, joué par Andy Serkis. D'ailleurs, les deux seuls hommes blancs dans la distribution sont des anciens de Lord of the Rings, ce qui me pousse à dire qu'il y avait des Tolkien white guys. Mais, yes! Les jokes de Panthère Rose,
mais faut que je me mange. Mais je comprends.
Non, c'est ça, Andy Serkis qui joue à Ulysses Kloss, qui est également extraordinaire, mais qui également doit passer dans un seul arc. Bref, 9 sur 10, sans même hésitation. Ils sont en train de battre des records sur un film de super-héros. Les sorties de ce film de super-héros, il est deuxième derrière The Avengers. Il a définitivement battu le record mondial de la meilleure ouverture, le meilleur week-end d'ouverture pour un film dirigé par un homme de couleur. Définitivement, non, un film à aller voir et revoir. D'ailleurs, je compte aller au cinéma, retourner le voir.
Mais moi, j'ai une question pour toi, Louis.
Oui.
Mettons, moi, je ne suis pas une habituée de l'univers de Marvel. Est-ce que je peux quand même y trouver mon compte? Parce que ça m'intéresse ce que tu me dis, mais si...
Je te dirais que j'aime beaucoup... certains films de Marvel, non. Je pense que les Avengers, entre autres, c'est très dur d'essayer de s'attaquer, même Captain America à l'occasion. Celui-là, non. Celui-là, tu pourrais y aller demain.
Okay.
Oui, à certains moments, tu vas faire « me semble que ce personnage-là est accueilli avec un peu trop de normalité. Comment ça?
Okay. »
Mais je te dirais que jusqu'aux scènes d'après-crédit, tout le film va être entièrement compréhensible et digestible pour quelqu'un qui n'a pas vu l'univers Marvel.
OK, mais il y a toujours des petites scènes cachées à la fin.
Évidemment, c'est un film Marvel, il y a deux scènes d'après. C'est un film Marvel, donc les nécessaires sont là, c'est-à-dire des jokes un peu drôles, un peu poche, mais qui fit dans l'univers. Un caméo de Stanley, deux scènes d'après-crédit. Je veux dire...
Ah oui, tout est là.
D'ailleurs, il est dans un casino cette fois-ci. Après, mais je reste que mon caméo favori de Stanley, c'est Deadpool. Mais où il est DJ dans un bar de danseuse.
Ah, j'en avais même pas remarqué, tu vois.
Là, il est gambler dans un casino coréen. Fait que bref, 9 sur 10, un extraordinaire film. Ce serait ça pour La Panthère Noire.
Oui, intéressant.
On va aller écouter la musique de La Panthère Rose maintenant.
Notre sélection musicale de la semaine, La Panthère Rose. Donc, cette semaine, on a des sorties cinéma.
Ah oui?
Oui, oui, je vous le promets. Je vous en parle, là, parce que c'est vrai que ça arrive.
C'est original.
C'est fou, hein? On a un autre film québécois qui sort cette semaine. Ça n'arrête jamais. Je pense qu'il y a juste ça, des films québécois. Un truc qui s'appelle Les faux tatouages. 1h27. Théo fête son 18e anniversaire en assistant à un spectacle de musique. Il termine la soirée seul dans un restaurant où il fait la connaissance de Mag, une fille marginale. Fallait que je le dise sur le ton de la lecture parce que
oui.
Je peux pas sérieusement dire Mag, une fille marginale, sans commencer à rire comme un tweet. Ça prend pas de temps avant de parler de tatouage et de préférence musicale en accompagnant sa nouvelle amie à bicyclette. Théo est invité à rester pour la nuit. Une idylle, c'est pas moi qui l'ai écrit, c'est la sortie de presse.
C'est correct.
Née graduellement au fil de leur rencontre, Théo cache toutefois un secret. Il s'apprête à quitter Montréal pour remettre les compteurs à zéro. Dans une petite ville loin des remords de son passé. C'est réalisé par Pascal Plante et ça, je connais aucun des comédiens et ou comédiennes qui est impliqué dans le projet.
C'est un drame, c'est une comédie?
C'est un drame.
Okay. Ça a l'air un peu surréaliste.
La bande-annonce, c'est quand même... pas mon genre. Assez solidement, ouais, une espèce de drame psychologique.
C'est large, ça, pas ton genre. C'est un genre large.
Ouais. D'ailleurs, parlant de pas mon genre, on a également Isla Blanca, qui est un autre film québécois, qui parle de Mathilde, qui est une femme en fugue depuis 8 ans, qui revient dans la ville de son enfance après des années d'absence inexpliquées. Son retour n'est pas facile, surtout que sa mère est gravement malade et sur le point de mourir. Mais pour pouvoir lui dire adieu, il faut d'abord recoller les pots cassés. Le temps d'une journée, Mathilde sera confrontée à cette décision d'adolescente et aux conséquences qu'elle a eues sur sa famille. Connais pas le réalisé par Jeanne Leblanc, c'est Charlotte Aubin qui occupe le rôle de Mathilde.
Ah ben écoute, hein?
Ouais, non, c'est ça. C'est dans le pas mon genre, ça c'était assez solidement placé là.
Effectivement.
Par contre, dans les choses dans mon genre, il y a le moineau rouge, le red moineau.
Le moineau rouge.
Avec Jennifer Lawrence.
Ah ouais? Oh,
est-ce que ça a un lien avec Hunger Games?
Oh.
Parce que moineau, Jennifer Lawrence.
Voici la blague, non. Ce n'est pas... OK, voici comment est-ce que c'est encore plus drôle que ça. Ce n'est pas dans l'univers Hunger Games. Il n'est pas question de ces oiseaux-là. Ça s'appelle The Red Sparrow en anglais. C'est effectivement Jennifer Lawrence, Joel Edgerton. C'est effectivement dirigé par Francis Lawrence, le directeur de 3 des 4 Hunger Games. Il y a Mary-Louise Parker et Jeremy Irons aussi qui sont dans ce film-là. C'est dans le récit actuel, dirigé par Vladimir Poutine, l'officier de renseignement Dominika Egorova, Jennifer Lawrence, tâche de tracer sa route dans la jungle des services post-soviétiques. Après avoir reçu contre sa volonté l'ordre de devenir un Sparrow, soit un agent entraîné à séduire l'ennemi, Dominika est chargée de s'attaquer à Nathaniel Nash, un jeune agent de la CIA, Joel Edgerton.
Ça a l'air extrêmement bon.
Ça a l'air vraiment délicieux. J'ai hâte d'aller voir ça la semaine prochaine. J'irai le voir... avec assurance, si ce n'était pas de la dernière sortie de la semaine.
Oh!
Jim, sais-tu de quoi il est question?
Ben là,
c'est un film qui me fait énerver le poil depuis déjà plusieurs semaines. On s'en est parlé. J'ai des émotions à chaque fois que je commence à voir la bande-annonce dans une salle de cinéma.
Mais je pensais que c'était Black Panther, justement.
Un justicier dans la ville. Version française de Death Wish.
Mais oui.
Avec Bruce Willis. OK, là, il faut que je vous lise la bande-annonce telle qu'elle. Pas la bande-annonce, le sortie de presse, juste parce que j'ai jamais vu une phrase... qui en laissait autant à voir. Bon. Un père aimant est transformé en une machine à tuer quand sa femme est assassinée par un criminel. Point, fin barre. C'est ça la description que la maison de distribution nous fait.
Ça n'invente pas la roue, on s'entend comme début d'histoire.
En fait, c'est aussi un remake d'un film de 1974 qui mettait en vedette Charles Bronson et Hope Lang dans le rôle du monsieur et de la madame principale. Fait que c'est Bruce Willis, Vincent D'Onofrio.
Oui, ok, là je replace ton film. Ok, oui. Bruce Willis avec sa cagoule.
Bruce Willis avec sa cagoule, mais oui.
La vidéo est devenue virale. L'homme au capuchon a été surnommé le bourreau. Et voilà qu'il vole des voitures.
A-t-il raison de se substituer comme ça à la justice?
C'est devenu un héros.
Et comment était le tireur?
Il avait l'air d'un blanc.
J'ai ma famille. Mais lorsqu'elle a eu besoin de moi...
911, quelle est l'urgence?
Des hommes sont entrés chez moi, ils sont là. Non!
Je n'ai pas su la protéger.
Papa, où est maman?
Ceux qui ont fait ça sont là, quelque part.
mais vous ne pouvez rien faire. C'est ce que vous me dites.
Si un homme veut vraiment protéger ce qui est à lui,
je veux m'acheter une arme.
Il doit s'en charger lui-même.
C'est fermé, monsieur.
Ah ! Ça tue ma femme ! Qui d'autre était là ?
Je sais rien de plus.
Je crois, Joe. Alors, vous allez pas me tuer ?
Non. Mais Jack, oui. Tu t'es trouvé en pleine fusillade ?
C'est le gars de la crème glacée.
Le gars de la crème glacée.
Pour se rendre à l'école, il faut travailler pour lui.
T'es qui, toi ?
Mon dernier client.
T'es pas un policier !
Ou bien que quelqu'un le fasse !
Ça vous
rechargez à bloc. Oui.
C'est Eli Roth qui dirige ça. Eli Roth qu'on connaissait pour Knock Knock, une comédie érotique qui a sorti en 2013, mais qu'on a aussi connu dans Inglourious Basterds comme étant The Jewish Bear, apparemment.
De toute évidence.
Écoute, c'est des choses qui arrivent. Fait que c'est pas mal ça. C'est juste ça. On a juste ces cinq films-là qui sortent la semaine prochaine.
Bon, ben moi j'irai voir le Red Bird, puis tu pourras aller voir.
Puis j'irai voir Death Wish.
C'est ça.
Puis on n'ira pas voir Les Faux Tatouages. Donc, cette semaine, Jim, t'as aussi été voir un excellent film. T'as été voir un autre film sous-titré, d'ailleurs. T'as été voir L'Insulte.
Absolument. En fait, le film L'Insulte, c'est une collaboration du Liban, de la Belgique, de la France, et de Chypre et des États-Unis, donc pas mal de monde là-dedans. Le film est réalisé par Ziad Doueri. C'est un réalisateur libanais, mais né en République démocratique du Congo, donc déjà beaucoup de diversité. Un film qui oppose les acteurs Adèle... Ah, si je l'aurais pas... Adèle Karam et Kamil El Bacha, qu'on ne connaît pas vraiment, et pour la plupart des acteurs du film, d'ailleurs, c'est leur premier long métrage. Voici un extrait de la bande-annonce en arabe, évidemment.
Tu es le mudda'i. Tony George Hanna, jinsiyya libnaniyya, mawalid 7 sanin l'awwal 1970.
Non.
Walli qalto mish maqboul. Hayak bitballish la hroub.
Au son, il commandait pas des kebabs. Là.
Non, absolument. Non, c'est ça. En fait, des falafels. Mais, mais non. Effectivement, donc vous venez d'entendre un extrait de la bande-annonce du film L'Insulte. Le film est présenté en langue originale arabe et sous-titré français, donc c'est la raison pour laquelle on a eu la version en arabe. Je l'ai faite plus courte pour l'occasion. C'est l'histoire, en fait, une histoire toute simple entre deux hommes qui dérapent et qui prend une tournure monumentale. Premièrement, il y a Tony, un Libanais chrétien nationaliste. Il arrose les plantes sur son balcon et, à cause d'un tuyau de gouttière hors norme, l'eau s'écoule sur des travailleurs de la construction dans la rue. Le contremaître de ces travailleurs, Yasser, qui est un réfugié palestinien, se rend chez Tony pour lui prévenir qu'ils vont réparer la fameuse gouttière. Tony ne veut rien savoir, lui claque la porte au nez. Yasser, en bon contremaître, fait quand même réparer la gouttière. Tony s'en rend compte et démolit le travail des gars de Yasser devant ses yeux. Yasser le traite de con et s'en va. Tony se rend chez le chef des travaux pour se plaindre et demande des excuses de la part de Yasser pour l'avoir traité de con. Finalement, Yasser y en a sacré une. C'est l'escalade totale.
Ben voyons.
Alors, ça, c'est la prémisse du film. Okay. Ça a l'air assez simpliste comme ça, mais ça va finir au tribunal devant la cour d'appel. Ça va se transformer en un véritable débat public démesuré. Et en fait, cette histoire n'est que parure, parce que ce que le film raconte vraiment, donc il adresse principalement la question nationaliste du Liban et la controverse entourant la présence de réfugiés palestiniens sur le territoire libanais. La population ne s'entend pas, c'est presque l'émeute, c'est fantastique. Le film est en lui-même un film de procès. On va suivre avec plaisir les combats de rhétorique des avocats, très bons acteurs d'ailleurs, mais aussi ce qui se passe dans les rues, les menaces et les problèmes que toute cette histoire va provoquer chez les deux hommes individuellement.
Mais la rhétorique de façon sous-titrée, c'est ce que ça le rend quand même?
Absolument, okay. Absolument. Et les acteurs sont excellents. Le
vécu est là.
Oui, le vécu est là. On sent l'émotion dans les paroles. Et veut pas, les Arabes en général sont très expressifs quand ils s'expriment. Donc, je dirais que ça augmente, peut-être ça décuple un peu l'effet dramatique, si on veut, du récit. Fait que ça, c'est bien. Le film, très bien balancé. À certains moments, on peut prendre pour un, puis après ça, on peut prendre pour l'autre, parce que on comprend quand même les réactions de chacun des deux hommes. On peut admirer leurs qualités respectives, mais aussi leurs défauts. Les acteurs sont tous excellents, les deux hommes sont troublants, l'écran et leurs expressions faciales créent vraiment une tension palpable tout au long du film. Je suis resté confortablement assis sur ma chaise pendant les 2 heures, qui quand même pourrait être assez long, mais ça semblait pas très long. J'ai souri quelques fois devant l'ingéniosité du scénario. Le réalisateur Dweri a appris à travailler avec Tarantino, il a été cadreur pour Tarantino. Ça paraît dans les plans qu'on propose, il y a une belle recherche au niveau de la photographie, sans tomber toutefois dans l'extravagance. C'est d'ailleurs la première fois qu'il... C'est d'ailleurs pas la première fois qu'il s'intéresse à la question raciale et au nationalisme libanais, à la question d'Israël et de la Palestine. Il a gagné plusieurs prix pour son film West Beirut en 1998. Il a même été détenu pour ne pas avoir respecté la législation et avoir été tourné avec des acteurs israéliens en Israël pour son film L'Attentat, parce qu'on sait que Israël et le Liban ne sont pas des amis. Et franchement, j'ai envie de voir ses autres films, c'est très 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 bon. Donc L'Insulte, pour moi, c'est un petit bijou du cinéma international, je le recommande grandement. Malgré tout le côté dramatique du truc, j'ai ri quand même quelques fois, c'est plus léger qu'on pourrait le croire et ça s'écoute très très bien. Je donne 8.5 sur 10 à ce film-là pour m'avoir surpris agréablement et jamais déçu. C'est un film que je pourrais revoir même d'ici quelques années, il entre dans mon top 5 des meilleurs films de procès, le meilleur étant The Verdict de Sidney Lumet avec Paul Newman.
Merci beaucoup Jim.
Mon plaisir.
Pour nos auditeurs et auditrices avertis qui ont écouté des films de super héros depuis une couple d'années déjà, reconnaîtront avec plaisir la fameuse
la pièce. La toune de Blade.
Quand il s'en va dans le rave, puis que le sang coule des sprinklers, puis que là, Blade vire complètement bad shit. C'était sur cette scène-là que t'as introduit le premier film de Blade. Moi, je me rappelle encore, jeune chiot, encore peu éduqué.
Jeune pug.
Je suis plus un bulldog à shape que j'ai, mais écoute, on sortira plus tard.
Ben oui.
Cette scène-là, qui est iconique, ma foi, où est-ce qu'on voit Wesley Snipes qui incarne le rôle de Blade dans un rave où il y a un humain et des dizaines de vampires, les sprinklers partent, le sang se met à couler bord en bord de la pièce, et là, la violence commence.
Ouais.
Et Blade... défait, détruit, cisèle tout ce qui se trouve autour de lui avec son iconique katana.
Oui, ben Blade.
Parce que, évidemment, que dans les années 90, d'avoir un homme noir en jaquette de cuir, la seule solution comme arme à lui donner, c'est un arme japonaise traditionnelle.
Moi, j'ai jamais vu les films Blade, mais je dois comprendre que c'est un vampire qui tue d'autres vampires.
Presque, demi-vampire.
Okay.
C'est un demi-vampire, donc c'est ce qu'il appelle un mal pardon pour les références, je ne l'ai vu qu'en anglais. C'est un daywalker, c'est un marcheur de jour.
Okay.
Donc, il peut survivre au soleil, c'est le seul vampire qui peut le faire. Il possède donc la moitié des pouvoirs, c'est-à-dire qu'il est quand même très fort, il est quand même très résistant à un paquet d'affaires. L'ail l'affecte, mais plus comme du poivre de Cayenne que l'arme mortelle qu'elle est contre les autres vampires de l'univers.
Mmh.
Il a une soif de sang qu'il peut contrôler au travers des potions et autres injections d'argent,
les
de
trucs
poudre d'ail.
Rouge.
Non, ça c'est plus tard dans les films de Jim. Tu vas trop vite.
Fait que c'est un peu comme le bébé de Bella et du vampire dans Twilight, si on veut.
Ouais, oui. Puis en fait, la création de Blade est vraiment similaire à la création du bébé de Bella puis l'autre tweet dans Twilight. Parce qu'effectivement, c'est une mère qui a été transformée vampire alors qu'elle était enceinte.
OK.
Donc, il est comme à moitié vampire, mais pas vraiment. C'est pas clair, cette situation-là. C'est pour ça que c'est super rare comme création d'enfants. Les enfants survivent pas normalement à ce setup-là.
Ben, c'est ça. C'est OK. Ben, ça reprend un... Ben, Twilight reprend le concept de Blade, si je comprends bien, parce que Blade était avant Twilight.
C'est à peu près la seule chose, très franchement, qui a été reprise du concept de Blade, parce que les vampires dans cet univers-là sont des créatures... Non, mais c'est rien de contre Twilight, c'est vraiment juste une question.
Ah ben moi, oui.
Que...
Ah oui, justement. Oui, je suis encore insulté qu'on en parle, mais poursuis.
Non, mais oui, c'est ça. Les vampires dans cet univers-là sont particulièrement cruels, vicieux, créent des complots pour dominer le monde, remplacer les humains, créer les humains en chaptel pour les élever comme du bétail. Ouais, c'était ça. C'était déjà bon, là, comme...
Il était excellent.
Le premier, oui.
Oui, c'est ça. On a le droit même d'oublier que les deux autres existent.
Non, le deuxième était très bon aussi. Le deuxième avait de très belles qualités. Le deuxième était d'ailleurs dirigé par Guillermo del Toro, dont on a entendu parler récemment à cause de Shape of Water, qui était d'ailleurs aussi très bon. Le premier a été dirigé par Stephen Norrington. David S. Goyer, c'est le troisième qui a dirigé. Et c'est celui le plus poche.
De toute évidence.
Oui. Je vais repartir de la fin pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi est-ce qu'on en parle encore aujourd'hui. Le premier est un succès extraordinaire. Le deuxième a voulu bâtir ce succès-là et créer quelque chose d'intéressant. Le troisième est ce qu'on appelle dans le milieu un dumpster fire.
C'est de la scrap monumentale.
C'est dirigé par David S. Goyer, qui a entre autres participé au projet que j'haïs tant, Man of Steel et Batman v Superman. Mais il a aussi co-écrit les Batman avec Christopher Nolan. Cet homme est donc.
Ah ouais?
Oui. Écrit. Okay. Écrit et scénarisé avec Jonathan et Christopher Nolan. Les trois Batman. Il a aussi travaillé avec Jonathan Nolan sur Man of Steel, mais c'est un collaborateur très proche de Zack Snyder, et pour ça, je ne peux pas apprécier David S. Goyer. La preuve, il a scrappé Blade 3. Blade Trinity était supposé être le retour final de Blade, était supposé être le couronnement de la carrière de toute cette histoire-là. Ce que ça nous a donné à la place, c'est les meilleures histoires de tournage de marde. Si vous avez la chance d'écouter Patton Oswalt, Patton Oswalt qu'on connaît comme étant la voix de Ratatouille, comme étant le gars dans Kings of Queens, qui est un humoriste américain très populaire, a joué un rôle dans ce film-là, un rôle de soutien. Puis, il a été en entrevue à plusieurs reprises où il parlait de ces épisodes-là, où est-ce que Wesley Snipes était apparemment high tout le temps, refusait de jouer autre chose que son rôle, ne répondait à autre chose qu'au nom de Blade, ce qui aurait créé une multitude de conflits sur le plateau de tournage, qui aurait fait que la production a été ralentie, a été défaite, il y a eu des scènes qui ont été complètement coupées, bref.
Ça me rappelle Jim Carrey puis Andy Kaufman.
Ah, que je connais pas cette histoire-là.
En tout cas, c'est sur Netflix, on en avait parlé un moment donné. Mais c'est un peu ça aussi. Il répondait qu'au nom d'Andy.
Ah oui, quand même. Mais là, on parle quand même de. Puis c'est la drogue que je trouve très drôle, parce qu'apparemment, c'est ça, c'était le pot qui était endémique sur le plateau de tournage, mais spécifiquement, la roulotte de Wesley Snipes ne sentait que ça. T'en approchais à moins de 30 pieds, tu venais high.
En même temps, c'est normal pour un vampire, il faut qu'il ait les yeux rouges, sinon c'est pas
crédible. Oui, non, ça, non, c'est la seule explication. C'était aussi l'autre aspect du costume de Blade. Il portait toujours ses Christie de lunettes fumées.
Ben oui,
ah, c'est pour ça.
Non, c'est ça.
Eh ben. Fait que là, ça a donné des histoires cocasses.
Oui, mais c'est vraiment pas bon. C'est genre surprenamment pas écoutable. C'est dommage d'ailleurs, parce qu'on avait Patton Oswalt, on avait Norman Reedus, qui est devenu un des personnages principaux de Walking Dead après ça.
Qui joue aussi dans d'autres choses, oui.
Oui, mais une couple de jeux vidéo aussi. Mais c'est ça. Fait que ça, c'était pas écoutable. Le 2, c'était bon, c'était intéressant, mais c'était un peu oubliable. Le premier était juste iconique. Le premier était parfait.
Ça suit un peu la même chose que la trilogie de la Matrice. Là. On s'entend que c'est un peu la même chose. Le premier est excellent, le deuxième est pas si pire, mais pas largeux. Puis le troisième est épouvantable.
Puis beaucoup de gens ont accusé, d'ailleurs, quand ça a commencé, Blade d'être une copie pauvre de la Matrice. Parce que si tu penses à la prémisse, c'est une personne qui a des pouvoirs extraordinaires dans un univers qui ne le comprend pas, où il est le seul à voir la vérité. Porte un jacket de cuir, un trench coat de cuir long, se bat avec une arme inhabituelle, c'est-à-dire un katana dans ce cas-ci. Il y a des armes à feu, il y a une esthétique.
Oui, l'esthétique est similaire, je suis d'accord. Par contre, l'histoire, je trouve que c'est un peu tiré par les cheveux. On parle quand même de vampires et là, on parle d'un monde virtuel.
Ouais, non, mais si tu fais juste les analogies directes, genre les vampires comme étant les machines,
l'agent
Smith comme étant les lunettes soleil.
Les lunettes soleil, oui.
Ouais, définitivement. L'usage abusif de techno dans tous ces films-là. Je lisais la bande sonore des trois films. C'est pas mal un ramassis des meilleurs et des pires artistes techno et électro des années 90-2000.
Je pense que c'est Daniel Desnoyers qui a fait la bande sonore. Non, c'est pas vrai, c'est une blague.
C'est Prodigy, en fait, qui avait été très célèbre à faire la bande sonore du 2.
Mais moi personnellement, c'est une époque où j'écoutais du techno. Donc, je pense que c'était quand même assez populaire à cette époque-là au niveau des jeunes comme musique. Ce qui fait qu'on avait tous le soundtrack original de Blade.
Ben, puis que ce soit populaire ou pas, faut pas oublier qu'à ce moment-là, c'était aussi juste tellement approprié pour le film. Là, comme la scène iconique du rave,
oh oui.
Le reste, parce que c'est un espèce de beat vraiment solide, vraiment non-stop, agressant, qui te rend dans les oreilles puis qui te force à être entièrement là. Tu sais, pour faire le montage de cet épisode, oui, on parle un peu de comment on fait la saucisse. Il a fallu que je regarde la pièce comme juste les waves de la pièce, puis c'est un bloc non-stop de son sans arrêt qui t'arrive, c'est ça, dans les oreilles à plein volume en 440 puis en 120 BPM, puis oublie ça là, comme c'est juste ça qui se passe. Mais c'est ça, fait que ça. Mais pourquoi est-ce que je parle de tout ça à la base? Il y a beaucoup de gens en ce moment qui sont en train de dire à quel point Black Panther est le premier vrai film de super-héros américain noir qui remporte un succès intéressant.
Depuis
c'est la première
Blade.
Fois qu'on... Non!
Même pas!
C'est ça! En fait, c'est que beaucoup de gens oublient l'historique de Blade. Blade, lorsqu'il est sorti, a fait plus de 250 millions, a rentabilisé son film en dedans 2 semaines au complet, sans même commencer à parler des sorties DVD après ça, puis de la vente de marchandises. Non, c'est pas le film qui... au niveau profondeur des personnages, au niveau intérêt cinématographique, artistique, est vraiment le plus poussé. Mais pour ce que c'était, puis pour... Je pense que c'est le premier vrai film de super-héros noir qui est pas du blaxploitation, qui est pas juste une copie conforme d'un film où il y avait un personnage blanc qui est maintenant noir.
Okay.
On pense à Black Superman, qui était l'autre film avant, là, qui a fait le plus d'argent, où il y avait un super-héros noir comme héros principal.
Mais Louis, on parle de Marvel, on parlait de Marvel tout à l'heure. T'as vu la série animée de Spider-Man, pas la série des années 70, mais la série des années 90 ou 2000. Oui. Est-ce que tu te souviens que durant un épisode ou deux, on voit Blade?
Non!
Et on voit Blade, et ce qui est le plus bizarre, c'est qu'il ne semble pas être noir. Et franchement, moi, ça m'a marqué. Ça m'a beaucoup marqué parce que quand j'ai vu le film après, je pense, ou avant, je me souviens plus, mais en tout cas. Bref, ça m'a surpris le clash de couleurs. Mais peut-être que c'est juste la façon qu'ils ont dessiné, mais je pense que c'est vraiment dessiné pour ne pas trop laisser l'impression qu'il est noir. Parce que, tu vois, il y a un autre personnage noir dans la série Spider-Man de je pense, 95 ou 2000, je ne sais plus. C'est le journaliste.
Oui.
Qui est un peu l'ami de Peter Parker. Et lui, tu vois vraiment qu'il est noir, là, tu sais.
Je te confirme, je suis en train de faire une recherche pendant qu'on se parle.
Mais c'est ça, monsieur.
Définitivement, qui est dessiné comme étant pas noir.
C'est
un blanc.
C'est bizarre.
Joue.
Je serais
curieux de savoir. J'ai pas lu les BD originales de Blade, parce que je sais que ça date des années 70 quand même, comme BD. Est-ce que le personnage était noir ou pas?
Je n'en ai aucune idée. Ça fait trop longtemps que je n'ai pas regardé les bandes dessinées. J'en ai quelques-unes pourtant. Mais je vais m'y mettre sur le dossier.
Excellent. On s'en reparle la semaine prochaine. Mais bref, pour dire que Wesley Snipes, peu importe la couleur du personnage principal, faisait un rôle extraordinaire comme Blade dans le premier film. Le deuxième aussi. Fait que c'est ça. Je vais vous parler de Blade aujourd'hui parce que je voulais qu'on n'oublie pas.
C'est thématique.
En plus, je voulais rajouter également, c'était aussi le premier film de super-héros qui était coté R, qui faisait des codes d'écoute intéressantes et qui faisait un revenu intéressant. Donc, il avait battu Deadpool à l'époque quand c'est sorti. Deadpool a depuis dépassé, là, mais...
Mais c'est bizarre parce que je repense à Blade en ce moment, puis je vois pas comment ça pourrait être coté R.
Le sang, la quantité ridicule, astronomique de sang. Partout, tout le temps.
Parce qu'on voit pas, c'est pas gore, là.
Oui, énormément. Là, on voit le katana de Blade.
Ouais, c'est vrai qu'il y a pas mal de sang, ouais.
Puis ça, c'est sans compter la quantité ridicule de morts de vampires qui se transforment en espèce de brasier humain qui disparaissent presque sur le champ. Je pense que la scène dans le premier où est-ce que Blade se ramasse attaché à un système de transfusion sanguine vampirique où il y a juste des rivières de sang qui coulent de son corps sans aucun lien avec la réalité, mais dans ce cas-ci, ça fonctionnait. Là.
C'est ambitieux, effectivement.
C'était beaucoup de choses. C'était aussi ambitieux. Fait que ce serait ça pour Blade cette semaine.
Merci, Louis.
Hey, ce serait la fin de notre épisode extraordinaire de Cinébrunch. Est-ce que vous avez eu du plaisir? Moi, j'en ai eu. Jim, as-tu un dernier mot de la fin?
Oui, à la semaine prochaine.
Mélina.
Bon cinéma.
Patate, c'était le mot de la semaine. Suivez-nous sur Facebook, suivez-nous sur iTunes, Stitchers, Google Play. On attend vos commentaires. Merci tout le monde.